Cette portion de la parole de Dieu est enregistrée et distribuée par l'Église, grâce et vérité. Jésus promet à ses disciples, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Nous prions que vous soyez bénis et rendus libres par notre Seigneur Jésus-Christ au moyen de ce message. Bonne écoute!
Et la fin de semaine de l'Action de grâce, hein, c'est pas juste pour avoir un congé supplémentaire. Le but de l'Action de grâce, surtout pour nous comme chrétiens, ça nous apporte tout de suite à être reconnaissant envers Dieu. Donc, on va tout de suite mettre la prochaine image. Excellent. Donc, c'est vraiment un temps de rendre grâce en toute chose. Un temps pour s'arrêter et la fin de semaine est un temps béni pour se souvenir des bontés de Dieu. La parole de Dieu, quand vient le temps de rendre grâce, il n'arrête pas d'en parler. Hein? 1 Timothée 6, 17 nous dit qu'il nous donne toutes choses avec abondance afin que nous en jouissions. Donc, on veut que l'action de grâce, le fait d'avoir une attitude reconnaissante envers ce que Dieu nous donne, on veut que ce soit un plus dans nos vies. On veut pas que ce soit une pression, quelque chose qui nous écrase. « Ah, je suis pas assez reconnaissant. Ah, je suis trop matérialiste. Ah, je voudrais vivre plus pour le Seigneur, mais j'ai l'impression que je vis pour moi. » On va voir beaucoup de ces choses-là, mais on veut que ce soit un plus, on veut que ce soit positif, on veut que ça touche notre cœur pour changer notre vie. On est dans une société d'abondance sans précédent. La plupart d'entre nous, on a accès à beaucoup de privilèges. On est gâtés côté nourriture, côté possibilité de faire des voyages. En même temps, souvent, il y a des dualités où là où il y a des gens très, très à l'aise, et je me considère de ceux-là, que des gens qu'on ne sait pas puis qui vivent vraiment dans des situations précaires, difficiles, où même le minimum est une lutte, là. Donc, on a besoin d'être sensible à ces choses-là. De toutes les bénédictions de Dieu qu'on peut avoir, la plus grande bénédiction, c'est laquelle? C'est Dieu lui-même. Hein? Et on a besoin de se rappeler, celui qui est la source de toute bénédiction, c'est Dieu. Mais Dieu, en la personne de Jésus, c'est la plus grande bénédiction. Et la manière dont on va percevoir notre Dieu va déterminer la façon qu'on va vivre et ça va diriger notre connaissance et nos actions de grâce. Et ce matin, on veut voir notre Dieu sous trois aspects. Vous l'avez ici à l'écran. Donc, on veut voir notre Dieu, premièrement, comme notre pourvoyeur, celui qui pourvoit. Ensuite, on veut le voir comme notre conducteur. Et ensuite, on veut le voir comme notre propriétaire, mais je voulais un « R », donc on va dire notre possesseur. On commence tout de suite avec la première idée. Dieu qui est notre pourvoyeur. Excusez-moi. Chat dans la gorge, mais je voulais pas vous envoyer ça trop dans le micro. Le mot pourvoyeur n'est pas là dans la Bible à propos de Dieu, mais le verbe et l'action y est très présent. Et la première fois qu'il est mentionné d'une façon significative que Dieu pourvoit, c'est en Genèse 22. Hein, et vous savez quelle est la situation. Abraham est sur le point, en s'arrachant le cœur de sacrifier Isaac, son fils unique, celui qui était le miracle de Dieu, ben là, il faut... Ah, merci. Je sais pas, c'est... Vaut mieux deux que... Merci beaucoup, Sylvain. J'apprécie ton attention. Et au moment où Abraham vient pour descendre le bras, qu'est-ce qui se passe? Hein? La voix d'en haut qui dit « Non, pas besoin de m'offrir le fils. Non, fais pas de mal à ton fils. » Et là, qu'est-ce qu'il dit à propos de Dieu? À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Et à partir de là, un des nombreux noms de Dieu avec un qualificatif, ici on a Yahvé Jiré. Ça veut dire Dieu qui pourvoit. C'est de ta main. Il y a eu le bélier qui était là, qui est devenu le sacrifice qui prenait la place de son fils. Un peu plus loin, en 1 Chronique, c'est à moi à faire aller la prochaine émission. OK. Vous n'avez pas ce verset-là. Un peu plus loin dans l'histoire, David, au moment d'inaugurer la maison et de faire en sorte que ce soit Salomon qui devienne le prochain roi, il fait dire que Dieu, en 1 Chronique 29, 11 et 12, que Dieu est le possesseur de toutes choses et que Dieu est le pourvoyeur de toutes choses. Il dit, c'est de toi, c'est de ta main que viennent toutes choses, que viennent, et là, il y a toute une description, la richesse, la gloire, les possessions. Et au verset 14, ça dit, tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Donc, David, au moment où il vient pour, en voulant faire la passation au prochain roi, puis être reconnaissant, puis offrir des offrandes, il dit, mais qu'est-ce qu'on peut t'offrir? Qu'est-ce qu'on peut te donner? Tout ce qu'on pourrait même te donner, c'est toi qui as pourvu, c'est toi qui nous l'as donné. Donc, cette idée que Dieu est le pourvoyeur, tout vient de Dieu. Tout ce qu'on dispose, tout ce qu'on peut même redonner à Dieu, ça vient de lui. On a également l'exemple frappant de Job. Hein? Il y a 4000 ans, avant même qu'aucune écriture, hein? Job est dans le milieu de l'Ancien Testament, donc on se dit, ouais, c'est pas mal arrivé là au milieu. Non, Job, il est avant Abraham. Job savait que l'Éternel était celui qui pourvoit. Tout venait de lui et qu'on pouvait revendiquer aucune propriété comme étant sienne. Et Satan s'est approché de Dieu, puis il a dit, enlève-y quoi? Enlève-y toutes ses propriétés, enlève-lui ses possessions. Touche à ce qui lui appartient et il te maudit en face. Dieu a fait ça, il lui a enlevé tout, hein? Et quand il a tout perdu, Job a déclaré, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Job déjà savait que qui était le grand pourvoyeur, c'était Dieu. Si on va dans la Nouvelle Alliance et qu'on voit les différents enseignements, il y en a énormément, on voit encore plus que ça vient de Dieu. Ça vient de notre Sauveur, de notre Seigneur, ça vient de Jésus. Jésus qui a enseigné en Matthieu 6, 33, hein, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses. Il parle du vêtement, il parle de la nourriture, le logement, tout ce qui est nécessaire. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. En Philippiens 4, 19, il est dit, « Et mon Dieu, pourvoira, hein, là, Dieu pourvoyeur, à tous vos besoins selon la richesse de la grâce. Imaginez comment la grâce de Dieu est grande. Imaginez comment elle est riche, elle est abondante, la richesse de sa grâce. Et notre Dieu va pourvoir selon cette mesure. En Hébreux 13, 5 aussi, vous avez le passage, quand il dit « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point », dans le contexte, là, il y a vraiment un aspect où ce n'est pas la présence de Dieu qui va toujours être là, mais c'est l'aspect financier. On n'a pas besoin de toujours se soucier d'avoir, de manquer des choses au point de développer l'amour de l'argent. Dieu va être là et il va prendre soin de nous. On est en sécurité. Dieu pourvoit. Il pourvoira, c'est sa promesse et son engagement envers ses enfants. J'aime beaucoup le prochain verset, 2 Corinthiens 9, 8. Je ne vous l'ai pas tout mis, mais je vais vous lire le restant. Vous pouvez regarder dans vos bibles ou sur vos téléphones ou simplement l'écouter. Et là, ça parle vraiment d'abondance. Dieu peut vous combler de toutes ses grâces afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, que vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Est-ce que Dieu pourvoit? Est-ce que c'est de l'abondance? Avez-vous remarqué qu'il y a un mot qui est revenu un peu souvent? Tout. Tout, ou dans ses différentes formes, revient à 5 reprises. Toutes ses grâces, afin que possédant toujours, donc c'est tout, mais appliqué au temps, tout le temps, toujours, en toute chose, de quoi satisfaire à tous vos besoins. Ben non, comme chrétien, on n'a pas à remplir tous nos besoins, on veut être modeste, on veut prioriser le royaume de Dieu. La parole de Dieu nous dit qu'il peut pourvoir à tous nos besoins que vous ayez encore en abondance pour, et là le dernier, toute bonne œuvre. Donc, tu en as tellement que tu donnes à Dieu, tu donnes à son œuvre, tu donnes pour prendre soin des gens, parce que Dieu pourvoit. Dieu est vraiment un pourvoyeur. On se souvient pour Abraham, à l'autel de l'Éternel, il sera pourvu. Il a été pourvu de la nourriture. Hein, Abraham, il était-tu content de voir, il aurait-tu aimé voir de la nourriture, de l'argent, des pièces d'or quand il y avait le bras tendu puis le couteau dans la main? Il était content de voir un bélier qui prenait la place d'Isaac. Et pour nous, c'est qui, c'est quoi qui est pourvu, qui est plus important encore que ce qu'on voit au verset 8. Hein? Dieu peut nous donner tout. Mais juste après, 2 Corinthiens 9, 15, là, ça dit « Grâce soit rendu à Dieu pour son don ineffable. Hein? » C'est un don qu'on ne peut pas, certaines traductions, c'est son don merveilleux. C'est un don qui est au-dessus de tout autre don. C'est un don que si on essaye de le décrire, on ne sait pas comment. Hein? On dit les mots me manquent, on entend souvent ça. Ben là, c'est... Il n'y a pas de mots pour exprimer combien ce don-là est grand. Et ce don-là, c'est lequel? C'est le don de la personne de Jésus. Donc, Paul, après avoir parlé de que Dieu peut pourvoir de toutes les façons, il fait un résumé puis il dit, « Hey, dans tout ça, là, rendons gloire à Dieu pour son don ineffable, son don merveilleux. » Son don qui est au-dessus de tous les dons. Dieu pourvoit à ce qui est nécessaire pour la nourriture, pour une vie d'aisance, il nous en donne plus que ce qu'on a besoin, puis on n'a pas à sentir mal avec ça, juste en faire une bonne utilisation. Mais on a besoin de réaliser que quand Dieu pourvoit, il pourvoit à ce qui est nécessaire, utile, bienfaisant, mais il pourvoit surtout à ce qui est indispensable, à ce qu'on avait besoin à tout prix. Hébreux 5 nous dit qu'il est devenu pour tous l'auteur d'un salut éternel. Et on a besoin de répondre devant la croix de Jésus. Hébreux 12, 28 nous dit que c'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété. La reconnaissance est toujours en fonction de ce qui a été fait pour nous. Si j'ai soif et quelqu'un m'amène une bonne bouteille d'eau, je vais dire « Hey, merci, puis je l'apprécie. » Si quelqu'un, je vais au restaurant, j'ai pas mon portefeuille, ça me coûte 30$, là je suis mal pris, puis il y a quelqu'un qui me dépanne, puis il dit « Tu me l'enverras, puis je vais être content parce que j'étais vraiment dans l'embarras. » Notre reconnaissance est en fonction de la valeur du don qui nous a été fait. Et notre Dieu a pourvu d'une manière tout à fait merveilleuse pour notre salut. Et il pourvoit encore à tous nos besoins. Qu'est-ce qu'on fait quand on a un besoin? On a toutes des personnalités différentes, hein? Certains, si vous êtes comme moi j'aimerais, là, financièrement, là, j'aime pas avoir des besoins. Parce que si je me rends à avoir un besoin, c'est parce que je ne l'ai pas prêt à utiliser, là. Ça, c'est de trouver notre sécurité dans le fait qu'on a tout préparé pour qu'on manque jamais de rien. Mais quand on manque jamais de rien, est-ce qu'on voit notre Dieu comme celui qui pourvoit, celui qui répond à un besoin? On le sait intellectuellement, on le sait bibliquement, mais on ne l'expérimente pas toujours. Qu'est-ce qu'on fait devant un besoin? Est-ce qu'on s'énerve? On se démène? On s'irrite? Est-ce qu'on se fait une fierté de nos possessions? Une fierté, un orgueil? Ou est-ce qu'on est dans la reconnaissance, de réaliser, de dire « Oui, j'ai peut-être travaillé très fort pour ça. J'ai peut-être étudié pendant longtemps. Mais qui est-ce qui m'a donné les capacités? Qui est-ce qui m'a donné l'opportunité? Qui est-ce qui m'a donné la santé? Qui est-ce qui a tracé le chemin pour que je puisse acquérir ces choses-là? » Tout vient de mon Père céleste. Tout vient de mon Sauveur Jésus. Devant l'insatisfaction, la convoitise, la crainte, l'insécurité, on a besoin de regarder que Dieu est le pourvoyeur. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Dieu pourvoit à tout ce qui est nécessaire et il le fait avec abondance, avec générosité. Mais Dieu a pourvu dans nos vies à quelque chose d'encore plus grand. En cette fin de semaine d'Action de grâce, on veut se souvenir que Dieu est le pourvoyeur. Deuxième qualité qu'on veut voir, c'est qu'il est le conducteur. Ça veut dire qu'il est au contrôle. En Daniel 9, 25, on retrouve ce terme pour désigner notre Dieu, hein? Il y a 42 semaines plus 7 semaines qui mènent à la fin des temps. Et ça dit, il y a ce temps qui mène au Messie, au conducteur. Et ça désigne qui, cette personne-là? Jésus qui revient dans la gloire. Est-ce que notre Jésus, est-ce que c'est lui qui est notre conducteur? Un peu plus loin, dans le livre de Daniel, en Daniel chapitre 4, verset 34-35, on a ce fameux roi Nebuchadnezzar qui était hautain, qui se proclamait Dieu et qui exigeait que tout le monde l'adore. Et après son humiliation, après son temps où il est allé brouter l'herbe, je pense pendant 7 ans, il a finalement dit, « J'ai béni le Très-Haut. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main et lui dise, « Que fais-tu? » Même un des rois les plus prétentieux encore que les dirigeants qu'on peut avoir à notre époque, l'a finalement reconnu. C'est Dieu qui est en contrôle de toutes choses. Un homme aussi qui a reconnu que Dieu conduisait toutes choses, c'est Joseph. Joseph, après avoir été vendu par ses frères, après avoir été en prison injustement à cause de Potiphar, oubliez-le pendant des années, il pouvait dire plus de 20 ans plus tard à ses frères, « Ne soyez pas fâchés et ne vous affligez pas de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé vers vous. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est comment Joseph a fait pour persévérer toutes ces années-là, continuer à garder espoir, confiance en l'Éternel. Comment il a fait pour continuer à faire toujours le bien, même quand les gens lui répondaient par le mal. Il était en prison et il donnait des bons conseils, puis les gens ne se souvenaient pas de lui, puis ils l'ont laissé moisir là. Joseph a pu persévérer parce qu'il avait confiance que l'Éternel était au contrôle, que c'est lui qui conduisait les choses, au contrôle de toutes choses. Il ne connaissait pas le plan, il ne connaissait pas la direction de Dieu, mais il avait la foi, il avait confiance. En psaume 115, verset 3, ça dit « Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. » Notre Dieu, Jésus, notre Sauveur personnel, est le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur des Seigneurs. On le chante, les temps sont dans sa main, il est au contrôle des circonstances. Et il sait le faire d'une façon tellement sage, extraordinaire, en laissant à l'homme la liberté de conscience, la liberté d'action, mais il sait comment agir à travers toutes ces choses-là. Jésus, quand il est venu, il a confirmé ces vérités qu'on avait dans l'Ancien Testament. Avant de retourner au ciel, il a dit, « Tout pouvoir m'a été donné sur le ciel et sur la terre. » Dieu, d'une façon personnelle et directe, dirige nos vies. Dieu dirige nos vies, il les conduit. Est-ce qu'on en a la conviction? Est-ce qu'on est capable de se raccrocher à ces vérités-là? J'aime tellement le passage en Jean 10 qui nous démontre que Jésus est le bon berger. Il nous appelle, puis ses brebis reconnaissent sa voix, puis elles le suivent. Puis quand les brebis écoutent, il est dit qu'il conduit ses brebis. Il les conduit dans des verts pâturages. Il est à l'œuvre dans nos vies pour nous conduire, pour nous diriger dans ses voies. Jésus est aussi le maître de l'Église. Il dirige son Église. Son Église est précieuse. Et méticuleusement, il voit, il dirige, il coordonne à son épanouissement. Dieu dirige nos vies parfaitement. Mais c'est dur à voir. On connaît tous ce verset-là, hein? Romains 8, 28. Il y en a plein qui pourraient le dire, mais je ne vous le demanderai pas. Toute chose concourt au bien de ceux qu'il aime, de ceux qui lui appartiennent. Dieu sait que les additions de toutes les choses qui arrivent dans nos vies, que ça contribue à l'accomplissement de sa volonté et de ce qu'il a en réserve et ce qu'il a pour notre futur. Quand il conduit nos vies, Dieu s'assure, dirige que le résultat de tout ça s'amène à quoi? À sa volonté, à ce qu'il veut accomplir. Moi, j'ai bien des fois l'impression que ma vie est tout croche, que ma vie, à part dans tous les sens. Quand je m'en venais en voiture devant la station service Irving, là, il y a quelqu'un qui s'est penché, puis qui je voyais plus la face, mais je voyais son auto, la petite Toyota bleue là, qui s'en venait vers moi, là, puis il cherchait encore, puis elle s'en venait encore, puis là, je me préparais à me tasser. Son auto s'en allait pas dans bonne direction. Parfois, j'ai l'impression que ma vie est comme ça. Moi, je dis, Seigneur, là, pour ta volonté, là, c'est droit comme ça qu'il faut que ça aille, mais j'ai l'impression que ma vie, elle part de côté, que ça va vers là. Puis là, quand ça part de même, puis je vais aller là, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On doute, on dit, Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi ça m'arrive? Ah, cette personne-là est plus forte que toi, puis tu n'es pas au contrôle. J'aime comment Romains 8, 28, avant de changer, hein? En parole vivante, ça dit, « Les intentions bienveillantes de Dieu sont à l'origine de tout ce qui nous arrive. » Est-ce qu'il y en a qui étaient forts en physique au secondaire? Hein? On voyait les vecteurs. Souvenez-vous des vecteurs? Les vecteurs, c'était une flèche avec une certaine quantité, soit d'énergie ou de distance, avec une certaine direction. Et quand on avait un vecteur, puis on avait un autre, qu'est-ce qu'il fallait pour calculer la distance ou le déplacement? Qu'est-ce qu'il fallait faire avec tous ces vecteurs-là? Les additionner. Et parfois, ça va à gauche dans ma vie, puis je dis, voyons donc, c'est tout croche. Puis après ça, ça va de l'autre bord. Non, non, c'est pas mieux, ces vers-là. Et Dieu, qu'est-ce qu'il sait faire avec toutes les circonstances de nos vies, avec toutes ces choses qui partent, qu'on n'a pas le contrôle, ça va à gauche, ça va à droite, ça recule, ça avance. Qu'est-ce que Dieu sait faire avec ça? Il sait nous conduire, nous diriger pour accomplir. Hein? Le vecteur noir, là, c'est ça qu'on veut, c'est ça que Dieu veut. Dieu, il sait faire concourir, avancer ensemble toutes les différentes circonstances, les temps où on dit, écoute, ça avance plus, ça recule, c'est négatif, j'aime pas ça. Dieu sait les mettre ensemble pour nous conduire. On peut se remettre dans les mains de Dieu. On peut être reconnaissant de dire, Seigneur, j'ai besoin de m'arrêter, puis j'ai besoin de faire le vide, d'enlever les mensonges que je crois. Dieu, tu diriges ma vie. Tu es mon conducteur. Le Messie, le conducteur de Daniel, bien, il est à moi. Je suis à lui. Quand les choses ne semblent pas se dérouler, comme on le souhaite, ce qui est souvent le cas dans la vie. On peut s'arrêter et se reposer sur Jésus, en contrôle, qui est patient, qui permet qu'on ait un peu à gauche, un peu à droite. Mais lui, il sait que ce n'est pas la fin. Comme Joseph avait confiance que tout ce qu'il vivait, ça avait un but ultime et qu'on n'a pas besoin d'être le scénariste, le réalisateur, celui qui connaît la fin de l'histoire. On a juste à être un comédien. On a juste à se laisser guider par notre Dieu qui nous dit quel rôle on a besoin de jouer présentement, quelle action on a besoin de porter. On peut dire à Jésus, on a besoin de lui dire, « Seigneur, tu vois tout ce qui se passe autour de moi, puis moi, j'aime pas ça. Je suis troublé, je suis blessé, je suis confus, mais je veux venir à toi, retrouver la paix, parce que tu es au contrôle. Jésus, merci d'être mon conducteur. » Jésus est le pourvoyeur, Jésus est le conducteur. Dernier aspect, on veut voir Jésus comme notre possesseur, notre propriétaire, celui à qui on appartient. Si on va dans l'Ancien Testament, on voit que Dieu est vraiment le propriétaire de toutes choses. L'Éternel, hein, la terre est à lui et tout ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Verset qu'on voyait tantôt, 1 Chronique 29, 11. Tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartiennent. Dieu est le grand possesseur. Et c'est une vérité qui est là dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau. J'aime bien Colossiens 1:16-17. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux sur la terre. Tout a été créé par lui et pour lui. Toutes choses subsistent en lui. Et c'est tellement beau de voir que Dieu n'est pas le possesseur du monde entier parce que il a un moment donné, il a amassé assez d'argent qu'il a pu les acheter. Il les a créés lui-même. Il les connaît personnellement. Tout vient de Dieu. Dans le livre des Actes, il y a deux passages qui nous disent que c'est lui qui donne la vie, le mouvement et l'être. Wow! Un peu plus loin, c'est lui qui donne la respiration et toute chose. Il est le propriétaire de la vie de chaque personne. Ça dépend de lui, ça lui appartient. Au-delà de la création, comme croyant, ce qui est le plus merveilleux, c'est de voir que Jésus est le propriétaire de nos vies. Un des noms qui représente le mieux notre Dieu, c'est Seigneur, hein? Ce qui veut dire maître. Ça veut dire qu'on est à lui, on est lié à lui, on lui appartient. En 1 Corinthiens 16, 19, 20, on connaît cette expression de glorifier Dieu dans notre corps et notre esprit qui appartiennent à Dieu. On a la responsabilité de glorifier notre propriétaire, notre maître, dans tous les aspects qui appartiennent à Dieu. Le Seigneur a le droit de nous demander de renoncer à certaines choses. Tout lui appartient. On est ses enfants, on lui appartient d'une façon tout à fait spéciale. Jésus a payé de sa vie, de son sang, ce que ça prenait pour qu'on soit à lui. Et c'est merveilleux d'appartenir à Dieu. Et quand on reconnaît que Dieu est notre propriétaire, toutes les décisions de notre vie, qu'elles soient physiques, matérielles, financières, spirituelles, ça concerne toujours le Seigneur. Et là, on rentre dans un mode où on n'est pas habitué, hein? Parce que là, il s'agit plus de décider ce que je veux faire avec mon argent, avec mon temps, avec mes énergies, mais bien se demander qu'est-ce que tu veux que je fasse dans tous les domaines de ma vie qui t'appartient. Notre compréhension de ces vérités-là, de nos croyances, va être déterminante. Est-ce que c'est mon corps? Ou c'est le corps que le Seigneur m'a attribué comme un véhicule humain pour que mon âme, mon esprit, qui je suis comme personne, habite dedans pendant le temps de mon séjour sur la terre? Ça change toute la perception. Est-ce qu'on devient exigeant, insatisfait? J'aurais pas voulu être comme ça, j'aime pas mon corps, j'aime pas tel défaut. Ou est-ce qu'on est reconnaissant? Est-ce que c'est mon argent à moi? Ou il vient de toutes les grâces de Dieu qui pourvoient à mes besoins? Si on dit que c'est à moi personnellement, je peux faire ce que j'en veux. Mais si ça appartient à Dieu, je deviens un gestionnaire, un intendant qui va en faire une bonne utilisation. C'est ce que Dieu veut de chacun de nous, des intendants, des gestionnaires de ses grâces. Qu'est-ce que je fais de mon temps? Mon temps est à moi, hein? C'est moi qui décide. J'ai des obligations. Parfois, il faut que j'aille travailler. Parfois, il faut que j'aide des gens. Mais en dehors là, de ces choses-là qui sont déjà remplies, qu'est-ce que je fais de mon temps? Je peux l'utiliser pour faire encore plus d'argent. Je peux aussi l'utiliser pour dépenser l'argent que j'ai mis tant de temps à accumuler. Faire des voyages, des loisirs, me détendre, me reposer. Si notre vie appartient à Dieu, il me semble que notre temps aussi devrait lui appartenir. Notre vie est déterminée, limitée par le temps. Le temps est toujours là. Notre vie commence au moment de la naissance et elle se termine au moment de notre mort. Et entre ça, on a une quantité incroyable de minutes, d'heures, de mois, d'années. Qu'est-ce qu'on fait avec notre temps? Qu'est-ce qu'on fait avec le temps précieux que le Seigneur nous accorde? En psaume, le psaume de Moïse, psaume 90, hein? Quelle belle expression qu'on a. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin qu'on applique nos cœurs à la sagesse. Qui est le propriétaire de notre vie? Ça va faire toute une différence sur la façon de la vivre. Si on prend ces vérités-là, je préparais ces choses-là, puis je me suis comme arrêté, j'ai fait une petite pause. Si on prend ces vérités, les choses qu'on vient de voir, puis qu'on les pousse à l'excès, ça peut amener une certaine pression, hein? Ça peut amener de la performance, ça peut amener de la culpabilité, ça peut faire perdre un esprit de grâce. Hey là, j'ai perdu 5 minutes, Seigneur, je te demande pardon, qu'est-ce que je devrais faire dans les 10 prochaines minutes. Non, on ne veut pas. Le fait que Dieu est propriétaire de notre vie et qu'on veut vivre pour lui, on ne veut pas entrer dans une pression, dans une culpabilité. J'aime bien l'attitude des Macédoniens. En 2 Corinthiens 8:5, il est dit que les Macédoniens avaient donné plus qu'ils en étaient capables. Hein? Vous vous souvenez de versets 1 à 5, ça dit qu'ils se sont donnés qu'ils ont donné eux-mêmes et au-delà de leur capacité, puis qu'ils suppliaient Paul. Paul leur disait, non, donnez pas tant, ça n'a pas de bon sens. Vous appauvrissez, puis vous êtes déjà pauvres. Non, non, ça nous fait plaisir, Paul. Ah oh, non, on va s'arranger, Dieu prend soin de nous. Et la clé dans ça, c'est qu'ils s'étaient déjà donnés eux-mêmes au Seigneur. Leur cœur était à Dieu, leur portefeuille aussi, puis ils donnaient généreusement. Le fait que notre vie appartient à Dieu, c'est pas qu'on n'en a plus de vie. C'est qu'on appartient à Dieu. Nous sommes à Dieu. Dieu est à nous. Il y a un lien. Comme dans une famille. C'est mon père. Je suis son fils. Il y a un lien qui est là. Puis on peut être ensemble. Puis ne rien faire l'un pour l'autre. Puis on est juste content d'être là. Parce qu'on s'appartient l'un à l'autre. Donc, le fait qu'on appartient à Dieu, on peut se donner en retour, sans pression, avec joie, par reconnaissance. En tant que propriétaire, Jésus aurait le droit d'exiger nos vies, d'exiger un travail. Il aurait le droit de nous commander des choses. Mais il nous dit, oui, voici mes commandements, voici mes enseignements. Si vous m'aimez, parce que vous avez reçu mon amour, gardez mes commandements. Jésus n'est pas devenu le propriétaire de nos vies pour nous rendre la vie impossible. Il est devenu le propriétaire de nos vies parce qu'il nous aime, parce qu'on est précieux à ses yeux et qu'il nous voulait à lui. Jésus pourrait l'exiger, mais il ne le fait pas. 2 Corinthiens 5, 15, j'aime cette belle expression. Jésus est mort pour tous, afin que ceux qui vivent, ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Et ça se commande pas, ça se vit. Je veux plus vivre juste pour moi. Parce qu'il y en a un qui a donné sa vie pour moi, puis maintenant, je veux vivre pour lui. Puis en vivant pour lui, j'ai l'impression de m'épanouir, de vivre pleinement. On est tiraillé hein, dans le contrôle de notre vie. Ma vie appartient à Dieu, mais c'est moi qui est là sur la terre, c'est moi qui prends les décisions. C'est ma vie que je donne au Seigneur, mais comment je le fais? Nous t'offrons ce qui vient de ta main. Jésus nous a donné sa vie. Jésus possède nos vies, il en est le propriétaire. À notre mort, il va se lever, il va dire, Richard, il est à moi. Je le connais. Il n'est pas parfait. Il n'a pas toujours fait ce que je voulais. Ce n'est pas sur la base de ses mérites, mais c'est parce que je l'ai racheté. Avec mon sang, je suis allé le chercher. J'ai dit, toi, je te veux. C'est sur cette base-là qu'on veut vivre. Si on regarde aux choses spirituelles, seulement d'un point de vue intellectuel, rationnel et même foi, les vérités qu'on vient de voir peuvent devenir un lourd fardeau, un poids énorme sur vos épaules. Vous pouvez franchir la porte en disant, « Ouais, action de grâce, je suis dans la joie. Tout ce que j'ai, c'est pas à moi. Dieu est le propriétaire de ma vie, puis il a dit que il a parlé de quoi? Donc, il a parlé de mon corps, de mes possessions, puis il a parlé de, c'est quoi la dernière chose? De mon temps, puis de mon argent. Ça veut dire qu'à chaque fois que, oh non, on n'ira pas à ce restaurant-là, là, tu sais, ça va nous coûter 75$ avec la taxe puis le type. Puis, on l'aime bien, ce restaurant-là, mais regarde, on va donner plus pour l'œuvre de Dieu. Puis, quand on applique des vérités juste avec une perception humaine, avec une perfection de religion, de performance, ça devient lourd. Jésus a dit, quand il appelait les gens, il a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Il a dit que « Mon fardeau est léger. » Avec moi, là, je viens pas vous mettre une religion. Le fait que nos vies appartiennent à Dieu, c'est pas un fardeau lourd, mais c'est plutôt un privilège. On n'est pas dans une religion pour ne faire que des sacrifices. On est dans une relation. On aime ça dire, ah, non, moi, c'est pas une religion, c'est une relation avec Jésus. Mais on est dans une relation pour se réjouir du lien qui nous unit. Et quand tu es lié à quelqu'un, tu ne penses pas constamment à faire quelque chose pour. Parce que juste d'être en contact avec la personne, c'est ça qui est le plus important. Un peu comme Marie qui était au pied de Jésus, puis Marthe, elle voulait faire de la nourriture. Marie, là, juste d'être là, c'est assez. Dans le même passage, Jésus, pour pas mettre un fardeau lourd, il a dit, recevez mes instructions. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Les vérités qu'on a vues ensemble, le fait que Dieu est le pourvoyeur, qui est le conducteur, qui est le possesseur, le propriétaire, c'est pas donné pour que la vie chrétienne soit encore plus dure. Ma vie n'est pas dans mon contrôle. Je dois constamment souffrir, me priver, renoncer. Parfois, il y a un aspect de la vie chrétienne, et je confesse que j'ai été dans mes 15 premières années un champion de tout ça, puis je regarde des fois des messages. Les gens écoutaient ça, puis ils ne disaient rien, mais j'espère au moins qu'ils en prenaient puis qu'ils en laissaient un peu, là. Parfois, la consécration, hein, le fait de « Ah, j'aime Dieu, là, tu sais, je vais serrer fort dans un bâton, avec moi, puis je vais souffrir, ben, j'aime Dieu. » On sort de l'amour de Dieu. On est comme dans une religion où on veut faire des grosses choses qu'on n'est pas convaincu, qui nous font mal en disant... C'est comme si on achetait l'amour de Dieu au lieu de le recevoir. Les vérités, les instructions de Jésus. Je ne crois pas qu'elles nous sont données dans le but qu'on souffre, pour qu'on se plaigne. Elles ne sont pas là pour se priver des plaisirs, des avantages de la vie moderne. Dieu n'est pas le propriétaire de nos vies pour faire de nous des esclaves qui souffrent, mais il est le propriétaire pour faire de nous ses enfants, son peuple qu'il chérit. On est les bénéficiaires de la grâce de Dieu. Quelle grâce! On a le bon berger qui nous conduit. Il pourvoit. Il nous protège, il prend soin de lui, et ça veut dire qu'on est à lui. Est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu qu'on appartient à Jésus? On compte pour lui, il nous voit et on est spécial. Et ces vérités-là nous permettent de faire confiance à notre Dieu. Jésus est là. Il se soucie de nous. Il est le bon berger. Et ces vérités pour lesquelles on peut rendre grâce à Dieu, qu'on peut être reconnaissant, qu'on peut dire merci, ça nous permet de se détendre, de relaxer. Tout ne dépend pas de vous. Dieu ne fait pas parce que vous lui appartenez. Dieu ne fait pas porter le poids de l'humanité sur vos épaules. Excusez-moi. Vous pouvez vous détendre. Vous savez, c'est vraiment épuisant de tout faire pour pourvoir, pour diriger. Ma vie puis la vie de mes proches que je suis responsable. Jésus veut nous montrer qu'il est là, qu'on lui appartient, qu'il va pourvoir, qu'il se soucie de nous, qu'il ne nous oublie pas, pour faire tomber la pression de la performance, pour qu'on puisse être reconnaissant. On peut lâcher prise et se remettre dans les mains de celui qui seul peut toute chose. Si vous êtes comme moi j'étais, un as de la consécration, quand on lâche prise comme ça, puis qu'on ouvre les mains, puis qu'on se détend un peu, là, on se sent mal. Pourquoi? Ben là, qu'est-ce que je vais faire? Je fais plus rien. Comme une maman qui est dans la cuisine, il faut toujours qu'elle cuisine puis qu'elle fasse de quoi, là. Non, viens t'asseoir à table avec nous. On veut passer du temps avec toi. On peut lâcher prise. Et une fois qu'on aurait été en communion avec Jésus, là, Jésus va pouvoir, parce qu'on a un cœur reconnaissant et qu'on a pris le temps de s'arrêter, Jésus va pouvoir susciter les bonnes actions qui viennent de lui. Et là, on va y aller, puis ça va être agréable, ça va être léger, ça va être joyeux. On va travailler, puis on n'aura même pas l'impression de travailler. On ne sera pas en train de souffrir. Jésus va pourvoir. Jésus va diriger ma vie. Jésus sait où la prochaine étape, mais moi, je ne le sais pas. Je veux juste te faire confiance, Jésus. Il connaît l'avenir. Il est celui qui donne un sens à ce qui, présentement, n'en a pas à nos yeux. Ça fait du bien. En croyant que Jésus est le pourvoyeur, je peux être déjà reconnaissant et confiant qu'il va pourvoir encore à l'avenir. En croyant que Jésus est le conducteur qui dirige toutes choses, il est au contrôle de ma vie. Je peux me détendre, je peux entrer dans un esprit de grâce, un esprit de bonté. Et en croyant que Jésus est le possesseur, ça veut dire que je suis à lui, je suis précieux à ses yeux. Jésus m'abandonnera jamais, il m'aime trop. J'aime ça, être la propriété de Jésus. Oui, on veut être reconnaissant. Et on va terminer avec la table du Seigneur, c'est bien ça? Patrick va venir. Et on va d'une façon encore plus concrète exprimer notre reconnaissance. Merci.
Ce message vous a fait du bien? Vous en voulez plus? L'Église Grâce et Vérité vous offre un site web sur lequel vous trouverez des messages en audio, vidéo et bien plus. Merci de nous honorer en les partageant sur les médias sociaux. Vous pouvez aussi laisser vos commentaires sur notre page Facebook ainsi que sur notre site web au www.graceetverite.org.